Je te demande si tu as connu ce qu'on appelait les apôtres. » Salvatore pâlit, ou plutôt son visage bronzé et bestial devint gris. Il s'inclina profondément, prononça du bout des lèvres un
« Fade retro !»
se signa avec dévotion et s'enfuit en se retournant de temps à autre. « Que lui avez-vous demandé ?» Guillaume resta un instant pensif. « Peu importe, je te le dirai plus tard. Maintenant, entrons. Je veux trouver Hubertin. » La sixième heure venait juste de passer. Le soleil voilé pénétrait du côté de l'Occident et donc par de rares et étroites fenêtres à l'intérieur de l'église. Un fin ruban de lumière touchait encore le maître-autel, dont le paliotto me sembla briller d'un éclat d'or. Les nefs latérales étaient baignées de pénombre. Près de la dernière chapelle avant l'autel, dans la nef de gauche, se dressait une mince colonne où se trouvait une vierge de pierre, sculptée dans le style des modernes, au sourire ineffable, au ventre proéminent, l'enfant dans ses bras, vêtu d'une robe gracieuse avec un léger corselet. Au pied de la Vierge, en prière, presque prostré, était un homme, vêtu des habits de l'ordre clunisien. Nous nous approchâmes. L'homme, en entendant le bruit de nos pas, leva son visage. C'était un vieillard au visage glabre, au crâne sans cheveux, avec de grands yeux bleus, une bouche fine et rouge, la peau blanche. À son crâne osseux, la peau adhérait comme il en serait d'une momie conservée dans du lait. Ses mains étaient blanches, aux doigts longs et fins. On eût dit une fillette fanée par une mort précoce. Il posa sur nous un regard d'abord égaré, comme si nous l'avions troublé dans une vision extatique, puis son visage s'illumina de joie.
« Guillaume !» s'exclama-t-il. « Frère très cher !»
Il se leva avec peine et se porta à la rencontre de mon maître, l'étreignant et le baisant sur la bouche.
« Guillaume !» répéta-t-il, et ses yeux se mouillèrent de larmes. « Que de temps ! Mais je te reconnais encore ! Que de temps, que d'événements, que d'épreuves le Seigneur nous a imposés !»
Il pleura. Guillaume lui rendit son étreinte, évidemment ému. Nous nous trouvions devant Hubertin de Casals. J'avais déjà entendu parler de lui, et longuement avant même de venir en Italie, et davantage encore en fréquentant les franciscains de la cour impériale. Quelqu'un m'avait même dit que le plus grand poète de ces temps-là, Dante Alighieri de Florence, mort depuis peu d'années, avait composé un poème, que moi je ne pus lire car il était écrit dans le vulgaire toscan, où l'on avait brassé et le ciel et la terre, et dont de nombreux vers n'étaient rien autre qu'une paraphrase de passage écrit par Hubertin dans son Arbor Vitae Crucifixae. Et ce n'était pas là le seul mérite dont aurait pu se vanter cet homme célèbre. Mais pour permettre à mon lecteur de mieux saisir l'importance de cette rencontre, il faudra que je cherche à reconstruire les vicissitudes de ces années-là, telles que je les avais comprises, et pendant mon court séjour en Italie centrale, d'après les paroles éparses de mon maître, et en écoutant les nombreux entretiens que Guillaume avait eus avec abbés et moines au cours de notre voyage. Je chercherai d'exprimer ce que j'en avais compris, même si je ne suis pas sûr de bien dire ces choses-là. Mes maîtres de Melk m'avaient souvent dit qu'il est fort malaisé pour un nordique de se faire des idées claires sur les vicissitudes religieuses et politiques d'Italie. La péninsule, où la puissance du clergé était évidente, plus qu'en tout autre pays, et où plus qu'en tout autre pays le clergé étalait puissance et richesse, avait donné naissance depuis deux siècles au moins à des mouvements d'hommes tendant à une vie plus pauvre, en polémique avec les prêtres corrompus, dont ils refusaient jusqu'au sacrement, se réunissant en communautés autonomes, et en même temps détestés par les seigneurs, par l'Empire et par les magistratures citadines. Enfin, était venu saint François, et il avait diffusé l'amour de pauvreté qui ne contredisait pas les préceptes de l'Église, et par son œuvre, l'Église avait accueilli le rappel à la sévérité des mœurs de ses anciens mouvements et les avait purifiés des éléments de désordre qui nichaient en eux. Il aurait dû s'en suivre une époque de douceur et de sainteté, mais comme l'ordre franciscain croissait et attirait à lui les hommes les meilleurs, il devint trop puissant et lié aux affaires terrestres. Des franciscains en grand nombre voulurent le ramener à la pureté d'autrefois, chose fort ardue pour un ordre qui, au temps où j'étais à l'abbaye, comptait déjà plus de 30 000 membres, répandue dans le monde entier. Mais c'est ainsi, et nombre de ses frères de saint François s'opposaient à la règle que l'ordre s'était donnée, en alléguant que l'ordre avait désormais pris la façon de ses institutions ecclésiastiques pour les réformes desquelles il était né, et que cela s'était déjà passé au temps où François était en vie, et que ses paroles et ses desseins avaient été trahis. Beaucoup d'entre eux redécouvrirent alors le livre d'un moine cistercien qui avait écrit au début du XIIe siècle de notre ère, appelé Joachim, et auquel on attribuait le don de prophétie. De fait, il avait prévu l'avènement d'une ère nouvelle où l'esprit de Christ, depuis longtemps corrompu par l'œuvre de ses faux apôtres, se serait de nouveau incarné sur la terre. Et les termes qu'il avait annoncés étaient tels qu'il avait paru clair à tous qu'il parlait sans le savoir de l'ordre franciscain. Et de cela, beaucoup de franciscains s'étaient moult réjouis, un peu trop semble-t-il, au point qu'à la moitié du siècle à Paris, les docteurs de la Sorbonne condamnèrent les propositions de cet abbé Joachim. Mais on dit qu'ils en agirent ainsi parce que les franciscains et les dominicains étaient en train de devenir trop puissants et savants dans l'Université de France, et qu'on voulait les éliminer comme hérétiques. Ce qui, finalement, ne se produisit pas, pour le plus grand bien de l'Église. Il fut ainsi loisible de divulguer les œuvres de Thomas d'Aquin et de Bonaventure de Bagnorea, qu'on ne pouvait taxer d'hérétisme, eux. Preuve qu'à Paris aussi, on avait les idées confuses, et que quelqu'un voulait les confondre pour des fins personnelles. Et c'est là le mal que fait au peuple chrétien l'hérésie, qui rend obscures les idées et pousse chacun à devenir inquisiteur pour son propre intérêt. Et puis, ce que je vis à l'abbaye, que je dirai plus loin, m'a fait penser que souvent ce sont les inquisiteurs qui créent les hérétiques. Non seulement pour les imaginer quand ils n'existent pas, mais parce qu'ils répriment avec une telle véhémence la vérole hérétique que nombreux sont ceux qui l'attrapent par haine des inquisiteurs. Vraiment, un cercle conçu par le démon, que Dieu nous en garde. Mais je parlais de l'hérésie, si jamais elle en a été une, joachimite. Et l'on vit en Toscane un franciscain, Gérard de Borgo Sandonino, se faire le porte-voix des prédictions de Joachim et considérablement impressionner le milieu des frères mineurs. Ainsi parmi eux s'éleva une troupe de partisans de la règle ancienne, contre la réorganisation de l'ordre tentée par le grand Bonaventure, qui en était devenu ensuite général. Dans les 30 dernières années du siècle passé, quand le Concile de Lyon, sauvant l'ordre franciscain contre qui voulait l'abolir, lui accorda la propriété de tous les biens dont il jouissait, selon qu'il était déjà légal pour les ordres les plus anciens, certains frères dans les marches se rebellèrent, car ils jugeaient que l'esprit de la règle avait été définitivement trahi, dans la mesure où un franciscain ne doit rien posséder, ni personnellement, ni en tant que couvent, ni en tant qu'ordre. Ils furent emprisonnés à vie. Il ne me semble pas que, se prêchant, ils étaient en contradiction avec l'Évangile. Mais quand entre en jeu la possession des choses terrestres, il est difficile que les hommes raisonnent selon la justice. On me dit que des années plus tard, le nouveau général de l'ordre Raymond Goffredi aurait trouvé ses prisonniers à Ancône et, les libérant, leur dit « Dieu veuille que nous fussions tous flétris d'une pareille faute ». Signe que les dires des hérétiques ne sont pas vrais et que dans l'Église habitent encore des hommes de grande vertu. Il y avait parmi ces prisonniers libérés Ange Clarino, qui rencontra ensuite un frère de Provence, Pierre de Jean-Olivier, lequel prêchait les prophéties de Joachim, et puis Hubertin de Casale, et de là naquit le mouvement des spirituels. En ces années montait sur le trône de Saint-Pierre un très saint ermite, Pierre du Morone, qui régna sous le nom de Célestin V, et qui fut accueilli avec soulagement par les spirituels. Il se montrera saint, avait-on dit, et observera les enseignements de Christ. Il mènera une vie angélique, tremblée, prélat corrompu. Sans doute Célestin menait-il une vie trop angélique, ou bien les prélats autour de lui étaient-ils trop corrompus, ou encore n'arrivait-il pas à supporter la tension d'une guerre trop longue désormais avec l'empereur et avec les autres rois d'Europe. Le fait est que Célestin renonça à sa dignité et se retira dans un ermitage.